La question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. La normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël est-elle toujours possible? Alors Lise, premièrement, qu'en ont pensé nos auditeurs? Et ensuite, on va en parler avec David Rigoulet-Rose ce matin.
Alors, nos auditeurs sont particulièrement optimistes, je trouve, ce matin, puisque on est à 87% de oui sur Facebook, 86% de oui sur Insta et 100% de oui sur X. Donc, en gros, ils sont tous persuadés que oui, cette normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite, elle est toujours possible. Et on va demander son avis à notre invité, David Rigoulet-Rose. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Est-ce que ça vous paraît toujours possible, cette normalisation?
Alors, en théorie, cette normalisation est toujours possible. D'ailleurs, elle était très proche avant la tragédie du 7 octobre 2023, puisque le prince héritier Mohammed bin Salman, le 20 septembre 2023, donc une quinzaine de jours avant, avait évoqué sur Fox News le fait qu'on se rapprochait tous les jours d'une normalisation, tout en précisant à l'époque quand même qu'il y avait une question importante, c'était la question palestinienne. Mais il se trouve que depuis évidemment le pogrom du 7 octobre, les choses ont considérablement changé. Les Saoudiens ont été obligés de suspendre, non pas d'annuler, on va dire, les négociations, mais de les suspendre sine die, compte tenu des opérations militaires que Tsahal a engagées dans l'enclave de Gaza. Et depuis, évidemment, même si les contacts ne sont pas rompus de manière non officielle, sur le plan en termes publics, il est impossible pour Riyad d'envisager une normalisation. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères saoudien, en l'occurrence le prince Faisal Ben Farhan Al Saoud, a évoqué le 4 février 2024 le fait que une normalisation, une normalisation entre les deux pays ne pourrait se faire que sur la base du plan Abdallah, le fameux plan Abdallah remontant au 28 mars 2002 qui avait été accepté dans le cadre du sommet de la Ligue arabe de Beyrouth à l'époque et qui prévoyait pour une normalisation avec l'État hébreu la restitution des territoires occupés, la reconnaissance d'un État palestinien avec Jérusalem-Est comme capitale. Donc c'est dire que pour l'instant les choses sont bloquées, elles le sont d'autant plus que la guerre se poursuit.
Alors justement, David Rigoulet-Rose, c'était pas innocent de notre part de poser cette question du jour, alors que Donald Trump doit se rendre au Moyen-Orient et notamment en Arabie Saoudite. On sait que son plan pour stabiliser le Moyen-Orient était basé sur cette alliance diplomatique entre Israël et l'Arabie Saoudite.
Oui, c'est le vrai problème pour Donald Trump. Le 21 janvier dernier, d'ailleurs, il évoquait dans une interview à la presse, à la Maison Blanche, il évoquait le fait que Riyad finira par faire partie des accords d'Abraham, en précisant qu'il n'avait pas besoin de faire pression sur l'Arabie Saoudite. Il pense que ça arrivera, peut-être pas tout de suite. Il reconnaissait que c'était pas forcément tout de suite, mais pas forcément dans très longtemps non plus. Donc il y a évidemment l'immense espoir pour l'administration américaine d'intégrer l'Arabie Saoudite dans le cadre de la dynamique d'Abraham. Et du côté israélien, évidemment, ce serait la cerise sur le gâteau par rapport au processus qui avait été lancé en septembre 2020. Le problème, c'est aujourd'hui la variable effectivement nationale palestinienne, politique palestinienne, qui constitue une hypothèque. Et en réalité, parmi les trois partenaires, c'est l'Arabie Saoudite qui peut se permettre d'attendre. Parce que dans le cadre des négociations, il y avait un certain nombre de critères qui étaient plus ou moins implicites pour normaliser. D'abord avec Washington, c'était d'avoir un vrai accord de sécurité pour protéger le royaume. Deuxièmement, c'était d'avoir l'autorisation de développer une filière nucléaire. Et là, on retrouve évidemment le fantôme du nucléaire iranien. Et en troisième lieu, la reconnaissance d'un État palestinien. Ça, c'était avant le 7 octobre. Et aujourd'hui, la hiérarchie des conditions s'est inversée. En haut, on retrouve justement la reconnaissance d'un État palestinien parce que par rapport aux opinions publiques arabes, Mohammed bin Salman, qui à titre personnel n'est pas forcément très emprunt, n'incline pas forcément pour cette question, et est obligé de tenir compte des opinions publiques. Il l'a dit d'ailleurs, il l'a dit en off, en disant que si lui, à titre personnel, c'était pas son obsession principale, il était obligé de tenir compte de son opinion publique, pour laquelle c'était très important.
Alors, ce sera tout de même le premier voyage à l'étranger de Donald Trump pour ce second mandat depuis son entrée en fonction en janvier dernier. Donc, c'est dire l'importance qu'il accorde à cette politique étrangère au Moyen-Orient. Et il a dit qu'il va se rendre également au Qatar et aux Émirats arabes unis. Est-ce que ces trois pays ont les mêmes intérêts par rapport aux États-Unis?
Ah, ils n'ont pas les mêmes intérêts, mais ils sont tous importants. Évidemment, le plus important, c'est le Royaume d'Arabie Saoudite, parce qu'il y a en plus il y a une relation personnelle entre le prince héritier Mohamed bin Salman et Donald Trump. Donc, et puis c'est le poids lourd de la région. Et puis, c'est dans le cadre d'une normalisation. Si l'Arabie Saoudite normalisait, ce serait évidemment le parachèvement d'un grand œuvre pour Donald Trump. Pour ce qui est des Émirats, ça fait partie des alliés du Golfe. Et concernant le Qatar, c'est un peu particulier. Le Qatar était parti prenant des négociations justement sur les otages dans le cadre de la guerre de Gaza. Et il se trouve que il y a une position particulière parce qu'il y avait un bureau politique du Hamas qui était basé à Doha. Et en même temps, il y a la plus grande base américaine, l'US-CENTCOM, qui est positionnée à Doha, au Qatar. Donc on voit bien à quel point tout se tient, tout est imbriqué. C'est ce qui fait la complexité de la situation.
Et Donald Trump qui a tout de même parlé, comme toujours dans tous ses accords, d'investir 1 billion de dollars. Donc, on ne sait pas très bien si c'était 1 milliard, 100 millions, mais en tout cas, beaucoup d'argent, et notamment dans des achats d'équipements militaires pour l'Arabie Saoudite. C'est toujours comme ça que Donald Trump voit les accords, en fait. Il y a une grosse partie économique. Il faut qu'il y ait un avantage monétaire pour tous les gens qui négocient avec lui.
Ah oui, de toute façon, son ADN, c'est une logique transactionnelle et essentiellement mercantile. Il n'est pas idéologique de ce point de vue-là, effectivement. Alors, ça peut poser des problèmes par rapport à une vision stratégique. Évidemment, il y a des télescopages parce que tout est incrémenté sur la variable économique et en espèces sonnantes et trébuchantes. Et il se trouve que c'est aussi un élément de deal potentiel sur le plan politique ou géopolitique. Donc c'est très compliqué parce qu'effectivement, dans une transaction, il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Sinon, on va dire, un engagement léonin et on n'est plus dans une logique strictement transactionnelle. Mais là, il se heurte à quand même à des contradictions qui sont patentes parce qu'effectivement, il y a un soutien avéré et renforcé au gouvernement de Benjamin Netanyahou, et en même temps, il voudrait finaliser cette normalisation qui ne peut pas se faire si le gouvernement israélien ne donne pas quelque chose, justement, concernant la question palestinienne à l'Arabie saoudite. Donc, c'est une contradiction qui, pour l'instant, constitue une hypothèque.
Pour finir, David Rigoulet-Rose, il veut peut-être aussi que l'Arabie saoudite aide à parvenir à un cessez-le-feu rapide dans la guerre en Ukraine. Il a même dit qu'il voulait organiser un sommet avec Vladimir Poutine en Arabie saoudite.
Oui, alors là, on retrouve l'Arabie Saoudite comme nouveau hub diplomatique, hein, puisque Mohamed bin Salman a des velléités de se présenter comme un go-between, justement, un substitut d'ailleurs du Qatar, avec des ambitions beaucoup plus importantes, et il fait valoir ses bonnes relations personnelles, à la fois avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Il faut rappeler que les relations avec Vladimir Poutine ont été scellées dans le cadre d'un accord pétrolier qui s'appelle l'OPEP+. Il y a un condominium saoudo-russe, et là on voit à nouveau aussi les contradictions qui sont sous-jacentes par rapport à la guerre en Ukraine, aux sanctions pétrolières justement mobilisées contre la Russie. Donc ça montre la complexité de l'Orient et finalement la complexité tout court des relations internationales.
Bien sûr, c'est vrai, c'est largement complexe les relations internationales et le Moyen-Orient plus complexe que tout. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose,
Merci.
chercheur à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, d'avoir été avec nous ce matin pour cette question du jour. Bonne journée et à très vite.